I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute,
émission spéciale.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Lucille Como, Emmanuel Giuliani, Charlotte Garçon, Marie Sorbier et Fabrice Bousteau. Une très belle et grande équipe pour une émission spéciale qui s'inscrit dans un ensemble de programmes que France Culture consacre, vous le savez, toute cette semaine aux élections municipales. Nous allons donc essayer, tant que faire se peut, durant l'heure à venir, de vous livrer un panorama des grands enjeux de la politique culturelle française à l'échelle des municipalités et des collectivités territoriales. Évidemment, chacune et chacun des critiques présentes et présents ce soir autour de la table de notre studio apportera précision et analyse sur le domaine qu'elle ou il connaît le mieux, musique, cinéma, spectacle, art plastique, mais nous essaierons aussi à partir de ces différents champs disciplinaires de dégager ce qui peut être transversal, ce qui concerne tout le champ de la culture et de la création. Et à ce propos, on va partir d'un fait qui touche toutes les disciplines, celui du désinvestissement de l'État, même si celui-ci, l'État, essaye de s'en défendre plus ou moins mollement. Ce désinvestissement, il est quand même manifeste de diverses façons, et ce désinvestissement a bien sûr des conséquences. Alors il faudrait savoir dans un premier temps si les collectivités locales compensent ou pas ce désinvestissement, de quelle façon. Ça va déjà ouvrir la voie à de nombreux commentaires possibles. Il y a bien sûr des conséquences économiques qui sont non négligeables, mais aussi très clairement une autre façon possible, voire tentante, de penser la politique culturelle à l'échelle d'une ville ou d'une communauté de communes. Ça peut donner lieu à une offre culturelle plus centrée sur des publics spécifiques. Et après tout, ces nouveaux acteurs sont peut-être dans leur bon droit, en pensant mieux connaître la demande culturelle sur le terrain. Ça peut aussi donner lieu à ce qu'on appellera, pour être clair, une culture régionalisée, localisée de force, avec des effets pervers assez évidents. Plus souvent, valorisation des gens du cru, un cahier de charges régionaliste, voire folkloriste. En ce cas, la décentralisation ne serait plus une ouverture, mais bien une fermeture. Alors, premier tour de table, pour déjà vous entendre les uns, les unes, les autres, pour avoir votre sentiment très subjectif depuis votre expérience de critique les uns, les unes, les autres sur ce désinvestissement de l'État. Est-ce qu'il vous semble, oui, que les rapports de force ont vraiment bougé dans ces dernières années? Allez, Fabrice Bousteau qui boude de déjà prendre le micro, on le connaît.
En dehors d'un sentiment, des chiffres, la Fondation Jean Jaurès a publié en décembre dernier, donc il y a à peine quelques mois, un rapport sur le budget du ministère de la Culture. Globalement, c'est très complexe parce qu'il faut intégrer les recettes fiscales, les dépenses fiscales, les crédits budgétaires. Globalement, il affirme que le budget du ministère de la Culture, qu'on établit aujourd'hui à 10,8 milliards d'euros, a baissé au cours des 10 dernières années, c'est très clair. D'autre part, un autre rapport qui a été fait par l'Observatoire des politiques culturelles observe que le budget des collectivités territoriales était de 7,6 milliards d'euros en 2010. Et aujourd'hui, on l'estime à peu près à 11 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux grands acteurs de la culture, les collectivités territoriales d'une part et l'État d'autre part, qui montent.
Et l'État qui baisse.
D'autant plus qu'il montre que on a fait aussi récemment l'Observatoire des politiques culturelles sur l'année dernière sur l'investissement financier des collectivités territoriales. En gros, les régions ont donné, les conseils régionaux ont donné plus 6%. Les villes de 100 000 habitants ont augmenté fortement leur budget consacré à la culture au cours de l'année dernière. Et surtout, et on y reviendra, les intercommunalités, c'est-à-dire ce système qui regroupe plusieurs communes ensemble, on l'estime à plus 26% pour l'année dernière.
Voilà des chiffres, du concret. Merci Fabrice pour ce
point. Sérieux.
Plein d'informations, mais ça va être sérieux tout du long, je n'en doute pas. Emmanuel Giuliani, des investissements de l'État, ressentis par vous?
Ressentir. Alors, personnellement, c'est difficile à dire. C'est vrai que pour compléter les chiffres que vient de donner Fabrice, il y avait eu aussi, à la demande de Françoise Nyssen, je crois, la
précédente,
ministre de la Culture, aussi une étude sur la distorsion très importante entre l'investissement culturel de Paris et la région Île-de-France par rapport au reste du territoire. Et là, je reprends les chiffres. En effet, on pensait, on avait établi qu'il y avait 202 euros par habitant dans Paris et Île-de-France dépensés pour la culture, là où il n'y en avait que 17 dans des régions comme les Pays de la Loire. Et
qui ne sont pas sous-dotés pour autant, les
Pays de la Loire. Qui ne sont pas dotés pour autant. Réunion, Guadeloupe et Mayotte, ça, on s'y attendait peut-être un petit peu plus. Donc, il y a vraiment cet écart important. Mais en effet, l'État arrivait dans le même rapport, et ça recoupe tout à fait ce que vous venez de dire, Fabrice. L'État représentait 29% de la dépense culturelle, là où les régions, les intercommunalités, enfin, le maillage régional en général, représentait 55%. Donc on voit vraiment qu'on a un paysage. Et alors en qualité, en quantité et en qualité, ça se traduit aussi par une très forte demande qui est faite en tous les cas aux acteurs culturels locaux, justement d'animer, de créer et d'avoir aussi toute une action sociale et culturelle. Donc on leur demande des missions très très riches avec des moyens qui ne sont pas forcément à l'avenant.
On reviendra bien sûr sur cette question. Marie Sorbière, j'ai demandé un ressenti personnel, on me donne des chiffres qui sont très intéressants.
Oui, alors je serais moins chiffres. Moi je vais être beaucoup plus sur le ressenti personnel, ou en tout cas ce que j'entends quand je me déplace dans les CDN, dans les centres dramatiques nationaux en province.
Ce que vous faites beaucoup,
ce que je fais beaucoup. Et ce que j'entends, c'est évidemment un désinvestissement de l'État, et les directeurs de structures souffrent de ça, mais arrivent à compenser avec leur municipalité ou leur communauté de communes ou leur région, enfin les différents niveaux parviennent, alors pas à un budget équivalent, mais presque. Mais ce qui les inquiète le plus, j'ai l'impression, c'est plutôt le désintéressement de l'État sur les sujets culturels et sur ce qui les intéresse eux, c'est-à-dire la création et le théâtre. Et ce qu'ils demandent, enfin ce qu'ils espèrent, c'est presque plus une politique culturelle globale, un souffle, un élan, je ne sais pas, un enthousiasme qui viendrait de l'État. Et c'est ça, et plus que des réformes
que de
qui sont économiques.
Que,
à chaque fois, on leur demande de faire des restrictions économiques, de réduire, de mutualiser, enfin tous ces termes-là, alors que j'ai l'impression que ce qu'ils attendent, c'est plutôt une ligne de conduite, ou en tout cas une direction ou un souffle. Et c'est ça qui manque, et c'est ça qui les inquiète.
Charles Garçon.
Oui, alors sur le manque de souffle culturel, politique, de politique culturelle globale, je pense que tout le monde en peut-être le ressent, c'est un peu atmosphérique, mais pour ce qui est du cinéma, il me semble que l'existence et le fonctionnement du Centre National de la Cinématographie fait que ça amortit un petit peu quand même. C'est une structure très solide dont les mécanismes complexes articulent le privé, le public, la génération d'aide automatique et la génération d'aide sélective. Et c'est vrai que ce sont des mécanismes et des très très fins qui pour l'instant ne sont pas remis en cause. Alors,
et qui soutiennent non seulement la production mais aussi le réseau de salles.
Alors, c'est toute la chaîne, c'est vraiment l'intérêt de cet ensemble de...
Très bien pensé, donc,
oui,
au départ.
Oui, il me semble, après... bien sûr, il y a des baisses aussi annoncées, importantes, et la discussion est plutôt sur le fait que le CNC, en la personne aussi de son nouveau président, Dominique Boutonnat, a finalement annoncé, mais les choses sont toujours en discussion, finalement, pour le budget 2021, mais il a annoncé que ce serait réparti de manière égale. Or, répartir la baisse sur les aides automatiques et sur les aides sélectives n'a pas les mêmes implications. Donc ce sont des mécanismes tellement bien pensés que effectivement dès qu'on change une petite chose, il y a des effets importants. Mais moi j'ai plutôt l'impression que le cinéma aidé depuis la pré-production, depuis le développement, l'écriture jusqu'à son centre, encore son cœur vivant qu'est la salle, n'est pas le plus menacé des arts.
Mais on verra tout à l'heure aussi avec vous en quoi la salle de cinéma, c'est un véritable lieu non seulement de diffusion, mais aussi d'échange et de création de culture. Vous vouliez ajouter quelque chose à Maurice Gousteau ?
Oui, qui va avec les deux dernières interventions. Effectivement, le système de redistribution et de diffusion du cinéma est le plus opérant de tous les secteurs culturels. Malheureusement, il n'est pas duplicable. Beaucoup d'experts en politique culturelle ont essayé de l'appliquer au domaine des arts plastiques ou du spectacle vivant et on n'a pas réussi. Et sur le désengagement de l'État, Il est surtout, à mon avis, effectivement organisationnel. C'est-à-dire que on oublie de parler de la réforme de Nicolas Sarkozy qui a établi le fait de supprimer les directions sectorielles. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une direction des arts plastiques, une direction du spectacle vivant. Et tout ça a été mélangé à une direction
De la création artistique.
Création artistique et du patrimoine d'un autre côté, pour résumer. Résultat, chacun d'entre nous, on le voit, il y a de moins en moins d'experts au sein du ministère de la Culture. Et du coup, il y a de moins en moins de paroles fortes auxquelles ont besoin les collectivités territoriales, surtout quand, du fait d'un changement d'élus, de partis, que soudainement l'un des partenaires se retire d'un financement, il n'y a plus de paroles sacrées et qui permet de réfléchir à la politique culturelle aujourd'hui en France. C'est ça le drame.
Lucille Gaumont.
Oui, sur la manière juste dont nous, critiques, observateurs, bon, plus ou moins informés de la vie culturelle, ce qu'on peut en dire, moi ce qui me frappe, c'est la grande opacité de ces structures-là, parce que là on parle de chiffres, on parle d'échelle. Bon, c'est moins vrai en cinéma, parce qu'il y a quelque chose d'historique qui est différent dans la diffusion cinématographique sur le territoire français, mais moi je me pose rarement la question, je ne sais pas si vous le faites, de là où on met les pieds quand on va dans un théâtre. Est-ce que c'est un centre dramatique national? Est-ce que c'est une scène nationale? Quelle est la différence? Comment ça fonctionne? Qui aide? Qui crée? Est-ce que la pièce qu'on voit à Saint-Étienne ou je ne sais pas où, à Angers, elle a été créée là? Est-ce que la région a donné de l'argent? Tout ça, moi, j'avoue, je ne me pose jamais cette question. Et ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que vous, en tant que critique, vraiment, parce que c'est votre métier, vous posez ce type de questions et est-ce que ça travaille dans votre manière d'aborder les objets et les sujets?
Emmanuel Giuliani.
Sur ce point, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je pense par exemple à La Belle Saison, qui a été lancée par le Théâtre des Bouffes du Nord, en associant une série de théâtres de régions, un ou deux étrangers, je crois, à Padoue, et voilà, en Belgique, et plutôt de petites villes qui avaient de jolies salles, mais pas forcément très exploitées, et qui a voulu en faire un réseau, un maillage où sont accueillis des concerts de très haute qualité de musique de chambre, assortis aussi de toute une action pédagogique, de préparation au concert, etc. Et La Belle Saison, elle ne se présente pas tant comme une saison de concert qu'une fédération de théâtre dans des villes petites ou moyennes qui veulent justement affirmer que chacune a une très belle identité à travers sa salle de spectacle architecturale, souvent située au centre de la ville, souvent, voilà, qui, comme la mairie et le clocher, était aussi le lieu, d'identité d'une ville, mais que chacune existe aussi parce qu'elle appartient à ce collectif. On l'a aussi avec pas mal de maisons d'opéra qui mettent en avant le fait qu'elles coproduisent leur spectacle avec d'autres salles plus petites, regardez comme je suis bonne et comme je vais chercher plus petit que moi, ou des salles plus grandes. Regardez comme j'ai pas l'air d'être prestigieuse, mais en fait je le suis, puisque la Scala de Milan ou l'Opéra de Munich s'intéressent à ce que je fais. Donc j'ai l'impression qu'il y a en tous les cas, dans le domaine que je connais un peu mieux, une envie de montrer que territorialement on est important, soit, mais parce qu'on appartient à un réseau. Et ça, c'est peut-être une piste intéressante.
Marie Sorbier.
Oui, au-delà de l'envie des lieux. Moi, j'en ai fait vraiment presque une éthique personnelle. C'est-à-dire que je tiens à aller voir les créations là où elles sont créées. Je parle de spectacle vivant. Ça m'importe beaucoup d'aller voir une pièce dans ses premières dates et dans le lieu où elle a été pensée et répétée. Et je trouve ça essentiel, ne serait-ce que pour les compagnies, pour avoir une presse qui sort vite avant l'éventuelle arrivée à Paris ou en tout cas avant une tournée. Et puis, c'est aussi un soutien au lieu. En effet, toutes ces scènes nationales et ces CDN qui prennent des risques sur des compagnies qui sont peut-être pas aussi connus que d'autres et qui offrent la possibilité de pouvoir venir les voir. Et il y a un risque artistique qui est pris et c'est ce qu'on essaie de saluer en venant les voir là où le risque a été pris et pas plus tard dans les salles quand ça tourne. Donc je trouve ça éminemment important en tant que critique d'être là où ça se crée.
Oui, puisqu'il y a vraiment un réseau de belles salles et je fais toujours attention dans les disputes de spectacle, notamment de dire là où ça a été créé, à quel endroit, parce que c'est important, ces lieux-là. Fabrice Bousteau.
C'est l'exact opposé de ce qui se passe dans le domaine des arts plastiques, puisque si on prend deux types de structures, les petites en région, donc si je prends l'exemple des centres d'art, dont il faut le dire qu'en moyenne, pour que les éditeurs le comprennent, un budget d'un centre d'art annuel, c'est autour de 800 000 euros. Il y a des centres d'art qui ont beaucoup plus d'argent, mais la moyenne, c'est celle-ci, sur les 24 centres d'art et sans doute plus existants en France. Ce qui veut dire qu'il faut en moyenne 3 expositions, qu'on a demandé à chaque centre d'art depuis des années, de faire beaucoup d'activités de médiation. Ça demande du temps pour avoir, faire de la pédagogie. Ils font des minuscules catalogues. Mmh. Ils font une exposition pour un jeune artiste qui n'est vu que, qui est présenté pendant 2 mois et demi et qui ne circule pas. Moi, j'ai toujours trouvé ça totalement aberrant. Et pourquoi ? J'ai d'ailleurs fait plusieurs notes à des ministres différents pour leur dire que je constatais cette aberration. Ça serait quand même beaucoup plus simple qu'une exposition soit coproduite par 3 centres d'art.
Oui, qu'elle tourne.
Qu'elle circule au moins dans 3 régions différentes en France, ce qui augmenterait vraiment les budgets pour l'artiste, ça le permettrait de le faire connaître davantage. Eh bien non, il y a une sorte d'égoïsme. Là, je pense que c'est beaucoup moins dû à la politique culturelle qu'à une sorte d'attitude des responsables d'art plastique qui veulent être le premier à faire quelque chose et qui veulent être quasiment le seul et ça ne circule pas. Mmh. Et d'autre part, les grands musées français, donc les grands musées nationaux, eux, ne réussissent pas où c'est des exceptions, à faire des expositions itinérantes en Europe ou dans le monde entier. Parce que chaque structure internationale veut aussi être la seule et l'unique qui a fait l'exposition X ou Y. Mmh. Donc il y a cette aberration budgétaire de communication et de valorisation artistique qui existe dans le domaine des arts plastiques. Et là encore, pour que ça puisse disparaître en France, ben il faudrait un coup de poing sur la table et une médiation importante de la part du ministre de la Culture.
Et l'intérêt du ministre de la Culture peut-être.
Et l'intérêt du ministre de la Culture pour qu'il exige que les subventions soient soumises à ce que au moins la moitié de la programmation d'un centre d'art doivent être faites en coproduction avec 3 autres centres d'art. Ça me semble pas aberrant. Ça me semble pas entacher la liberté de création. Au contraire, ça permettrait de valoriser les artistes et la création aujourd'hui en France.
Cette question de l'égoïsme, alors je sais pas exactement comment il faudrait le dire dans la phrase que je vais prononcer. On reparlera de la question, j'espère, des festivals et des moments événementiels au cours de cette émission spéciale. Mais c'est aussi quelque chose qu'on voit pour les festivals de cinéma, les festivals de spectacle vivant, c'est qu'il faut avoir la création mondiale, la première française. Sinon, on n'en veut pas. Et effectivement, quand on a fait une fois la création française, on ne peut pas la faire 2 fois. C'est quand même une aberration. Et que du coup, il y a des spectacles qu'on voit peu de fois ou des films qui connaîtront peut-être quand même une sortie, mais qui pourraient avoir une autre vie. Charlotte Garçon, il y a cette envie quand même, ce besoin ou envie d'être les premiers, d'être les seuls.
Vous avez raison, c'est un problème, cette compétitivité artificielle, finalement, puisqu'on parle de films qui souvent ne sortiront pas.
En plus.
Donc c'est une aberration double. On a l'impression aussi que le geste du programmateur devient aussi important que le geste artistique de création qui a présidé au film. Donc c'est un retournement qui est un pervertissement, disons, de la chose. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Et finalement, même en tant que festivalière, je préfère les festivals dans lesquels il n'y a pas de compétition. Je pense pour le cinéma au Festival international du film de La Rochelle, qui est un bonheur, y compris que ce soit les cinéphiles, j'en connais beaucoup qui sont des enseignants à la retraite, qui se payent des vacances à La Rochelle, qui se logent sur des bateaux, qui louent... Voilà, ou bien des professionnels, il y a un lieu pour les professionnels pour déjeuner tous les midis à La Rochelle, ou bien des gens vraiment de La Rochelle qui viennent au cinéma, et c'est le seul lieu où j'ai vraiment vu des gens refuser. Enfin moi j'étais aux anges qu'on me dise il y a plus de place pour un Bresson, pour un Bergman tous les jours. Pour les gens se font des rétrospectives.
Il y a les rétrospectives, mais il y a aussi tous les films importants qui sont dans les autres festivals et qui sont montrés là. Ceux qui étaient à Cannes un mois avant sont montrés très rapidement à La Rochelle et d'autres festival du monde entier.
Oui, des films contemporains, des films de
sans
l'année, voire inédits.
Oui. Côté spectacle vivant, c'est vrai que c'est un problème, Marie Sorbier.
C'est un vrai problème. Moi, je crois que c'est en partie dû aux carrières des programmateurs ou des directeurs de théâtre qui ont envie d'avoir un mandat qui rayonne et qui, du coup, a eu la première de... Ostermayer ou celle de Marthaler ou je ne sais quel nom, ou le dernier Castellucci, il faut que ça passe chez eux, parce que il faut que ce soit dans leur lieu que ces premières-là aient lieu. Et ça, c'est un problème d'ego, un problème personnel, un problème de direction qui fait qu'on pense à son lieu plutôt en termes de carrière et puis de quel lieu je vais pouvoir avoir après si j'ai réussi à faire un mandat avec cette suite de noms ou pas.
Et pareil pour la musique, Emmanuel
Giovanni. Ou alors des cas inverses, de personnes particulièrement visionnaires ou qui construisent justement le succès de leur lieu par le repérage des jeunes talents qui seront les maîtres de demain. Là, il y a je pense par exemple à, sans vouloir faire de la personnalisation à l'excès, mais à Patrick Folle, le directeur du théâtre de Caen. Véritablement, il a appelé en résidence, il monte des spectacles, des gens qui au moment où les programmes ne sont pas forcément très connus ou d'un petit milieu et qu'on reverra après, par exemple dans le domaine de la musique baroque, à l'Opéra Royal de Versailles, etc. Et il en est ravi. Il est, voilà.
Il n'y en a pas assez. Heureusement, il y en a dans tous les domaines.
Si on peut citer aussi Caroline Sonrier à l'Opéra de Lille, là, on va bientôt entendre la merveilleuse Elsa Benoît, soprano dans La Dame Blanche à l'Opéra Comique. Elle a chanté à l'Opéra de Lille alors que personne ne la connaissait. Après, elle est allée faire sa carrière à Munich. Bon, ben, on sait que Caroline Sonrier, elle fait débuter des gens qui, après, feront la gloire des grandes maisons. Mais c'est très, très bien. Et donc ça, il faut le souligner aussi. Voilà, les personnes comptent quand même.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
On essaye de poursuivre ce panorama, mais il nous faudrait une semaine spéciale d'émission, ce qu'on fera peut-être un jour, mais pas ce soir. Ce soir, Lucille Comeau, pour poursuivre cette dispute avant les municipales.
Oui, ben on va rentrer dans le vif du sujet qui fâche, à savoir ce que vous décriviez, Arnaud, ce que l'argent privé compense de ce que l'argent public ne fait plus. Est-ce que vous voyez à vos diverses échelles et dans vos diverses disciplines ce qui se joue là, c'est-à-dire quels sont les acteurs qui pallient les manquements potentiels des agents publics, des régions, des villes? Alors, Marie Sorbier.
Oui, alors il y a une caractéristique un peu particulière dans le spectacle vivant, puisque le théâtre privé n'existe quasiment qu'à Paris. Alors, j'avais pas les chiffres, donc j'ai appelé le syndicat cet après-midi du théâtre privé pour avoir exactement, et ils n'ont pas pu me répondre en disant qu'en fait...
Ils donnent jamais de chiffres. Hein.
Non, alors ils sont en plein recensement, le terme qui est employé. On m'a dit qu'il y avait 60 théâtres privés recensés, et... plus de 95% de ces 60 sont parisiens. Il y en a quelques-uns en province, mais ceux de province datent de moins de 5 ans. Sachant qu'on entend par théâtre privé un théâtre producteur, pas un théâtre d'accueil. Évidemment qu'en province, il y a des théâtres qui accueillent des spectacles privés, mais j'entends un théâtre producteur. Donc, c'est un peu la réponse de la compensation du privé par rapport au public en spectacle vivant va être une réponse... parisienne, en tout cas, sur la formule de théâtre.
Mais pas seulement, parce qu'au-delà du théâtre privé, il y a de l'argent privé dans le théâtre public.
Tout à fait.
Alors, et dans les festivals, notamment.
Et dans les festivals. Alors, il y a toute la politique de mécénat qui se développe beaucoup. Alors, en théâtre, quand même moins que, j'imagine, dans d'autres disciplines comme la musique.
Bah, les arts plastiques, ça va être spectaculaire.
J'ai l'impression encore qu'il y a cette version du mécénat où on participe pour l'image et pour le prestige. Ce ne sont pas encore, il me semble, des sommes qui sont majeures. Au Festival d'Avignon, on a quelques mécènes comme ça connus qui participent par plaisir. J'ai vraiment l'impression parce que ces gens-là sont là. Par exemple, on les voit à Avignon se promener en short dans la cour d'honneur. Donc, on
mécène à l'ancienne.
C'est un peu les mécènes à l'ancienne, personnalisés.
Le modèle de Pierre Berger qui, lui, en plus, donnait de l'argent sans qu'on le sache.
Pierre Berger, le Festival d'automne, c'est quand même une histoire d'amour incroyable. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'on est moins envahi par les logos, par exemple, pour parler de choses très marketing, que dans d'autres disciplines.
Oui, autres disciplines, arts plastiques, l'argent privé dans le monde de l'art, ça c'est...
Dans les arts plastiques, c'est compliqué. Il y a des mouvements contradictoires.
C'est vrai.
En tant que commissaire d'exposition, quand j'ai fait une exposition au Centre Pompidou, quand on fait une exposition au Centre Pompidou maintenant, on n'a pas un budget énorme pour produire des œuvres. Donc, que fait tout commissaire d'exposition? Il va s'adresser à des galeries. Et les galeries qui ont les moyens de coproduire des œuvres, ce sont des grosses galeries. Et ça concerne des gros artistes qui sont vendus très cher sur le marché de l'art. Donc, cet élément fait que ça contribue à répéter les mêmes artistes, à répéter les mêmes galeries. Donc, ça pourrait entraîner une forme d'uniformisation et ne pas permettre, comme ça existait il y a quelques années, de faire des productions d'œuvres sur des artistes totalement méconnus. Donc aujourd'hui, on a tendance à produire avec des œuvres d'artistes connus parce que l'argent est là. En parallèle, il est indéniable que le nombre de fondations qui s'est ouverte, mais dont certaines sont financées aussi par nos impôts, puisque c'est déductible. Donc c'est une autre partie du ministère du budget du ministère de la Culture, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que dans le budget du ministère de la Culture, il y a aussi, on estime, 4,5 milliards, donc presque la moitié, en plus, qui viennent des autres ministères. Le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères. La politique culturelle, étonnamment en France, elle concerne beaucoup, beaucoup de ministères aussi, qui agissent de manière petite, mais de manière diversifiée. Et donc, évidemment, Bercy agit aussi parce que on fait une déduction fiscale du mécénat. Mais c'est indéniable de voir quand on... Je vois qu'il y a 15 jours était ouverte la fondation d'Agnès B, qui a d'ailleurs avait une pratique un peu comme... qui a une pratique un peu comme Pierre Berger, de souvent d'aider discrètement une vraie pratique de philanthropie. Si je vois sur des territoires ce qu'est en train de faire Maya Hoffman, dont le milieu des arts plastiques dit mais c'est incroyable, c'est pharaonique, elle est un peu folle, mais elle est en train d'inonder tout le territoire. C'est-à-dire qu'elle a demandé à un hôtel célèbre historique de Arles, l'Arlatan, d'être totalement rénové, devenir une œuvre d'art totale par Auré Pardot, qui est un grand artiste entre guillemets décorateur. Donc elle a intervenu sur des restaurants, elle intervient sur le Maya du territoire, et elle crée une fondation gigantesque avec une architecture de Franck Gehry. Donc évidemment, ces mécènes, ces entreprises qui créent des fondations, ça insuffle une augmentation de l'offre artistique considérable. Dites-vous que la Fondation des Garry Lafayette, depuis un an, les gens ne le savent même pas, maintenant l'entrée est gratuite. Donc ce mouvement, la Fondation Pinault qui va ouvrir à Paris, à la Bourse en juin prochain, l'offre s'est considérablement augmentée. Et une forme de pluralisme aussi s'est développée, parce qu'avant, quand on parlait d'art officiel, ça devient beaucoup plus difficile aujourd'hui de parler d'art officiel quand il y a autant d'acteurs qui agissent. Voilà, mais avec des choses à rebours également en parallèle.
Mais avec quand même aussi ce tropisme dont on parlait tout à l'heure sur Paris, parce que là vous citez beaucoup d'exemples, à part Maya Hoffman, c'est Arles. Les autres grands lieux, fondations, que ce soit le...
Oui, mais
le
je citerai la fondation Carmignac qui s'est ouverte il y a deux ans. Ça commence quand même à s'insuffler dans tout le territoire. Voilà, il y a une chose qui est très importante à dire quand même sur ce rapport entre les financements et la culture, et en particulier les arts plastiques, c'est que ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années, moi je m'en souviens très clairement, j'ai écrit des articles dessus, c'est que les majorités des institutions, on leur demandait à peu près d'avoir 10-20% de ressources propres. Aujourd'hui, la règle, c'est 50%. 50% de ressources propres pour que les éditeurs comprennent. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'entrées de visiteurs, donc avoir une politique beaucoup plus séduisante a priori, et beaucoup moins de recherche et de création, et une grande dépendance aussi au financement privé et aux mécènes.
Alors, c'est le cas aussi dans le monde de la musique, que ce soit des maisons d'opéra ou de concerts, oui. Emmanuel Giuliani.
Oui, et pour, alors, avec la musique dite classique, musique lyrique et musique classique, il y a une même médaille avec ces deux revers sur lesquels joue ou ne joue pas le mécénat, qui est à la fois du prestige, donc c'est très bien, on va inviter ses clients. Alors, le cas patent, c'est par exemple l'Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris, là on revient à Paris, ou des cercles de mécènes dans d'autres opéras. Et puis le versant moins glorieux, en tous les cas du prestige, c'est l'élitisme. Et donc là, on demande aux musiciens, aux ensembles musicaux, aux maisons d'opéra, aux orchestres, etc., de dire que ce qu'elles font, l'art qu'elles proposent est élitiste, mais elles vont aller le diffuser auprès des publics empêchés, dans les hôpitaux, faire des actions pédagogiques, et le mécénat, une forme de mécénat, est intéressé par ça. Donc ce n'est pas l'objet lui-même, c'est la manière dont il va montrer qu'il sort de sa tour d'ivoire pour aller se répandre auprès du bon peuple, pour employer vraiment.
La Fondation Bettencourt, par exemple, finance l'essentiel des chorales aujourd'hui en France.
Absolument,
de manière
absolument.
Très populaire, et c'est assez remarquable, on n'en parle
mais
pas
bien
assez
sûr,
parce que c'est
bien
pas
sûr,
très visible.
Bien sûr, et on peut le faire de façon tout à fait positive. Donc la musique classique, elle joue un peu sur ces deux tableaux, et alors certains musiciens sont formés ou accueillants pour jouer le jeu, d'autres disent « moi je sais très bien jouer un concerto de Beethoven, mais aller le jouer à l'hôpital, je ne sais pas ». Donc apprenez-moi, aidez-moi, je veux bien, mais voilà, ça ne s'improvise pas d'un claquement de doigts non plus.
Charlotte Garçon, dans le cas du cinéma, il est encore particulier, mais tous les cas sont particuliers ce soir sur cette question.
Oui, mais alors, pour le cinéma, va se poser la question de la contribution des plateformes de streaming à l'économie du cinéma. Donc ça, c'est un dossier qui va être très très important parce que c'est de l'argent qui va devoir à un moment être récupéré, de même que, vous avez raison, l'argent privé, de toute façon, il est capté en partie par l'argent public en France, puisqu'il y a une taxe sur les billets de cinéma, donc y compris quand vous allez voir un film Marvel, le cinéma français prélève une taxe. C'est un financement qui nourrit les aides automatiques au cinéma français. Donc là, c'est particulier. Et sur la question des salles, il y a des salles qui sont des salles publiques, qui sont des salles municipales, mais il y a aussi un ensemble de statuts, il me semble, très très grand, sur les statuts légaux et les montages financiers qui président au fonctionnement des cinémas. Ils peuvent être associatifs, certains sont opérés par des bénévoles, certains ont l'air d'être des cinémas associatifs, et en fait, on s'aperçoit que c'est un privé un peu fou. Justement, là aussi, il y a des individualités très fortes dans certaines villes. Donc, finalement, c'est un maillage effectivement fort, mais qui n'est pas forcément homogène, avec quand même, sur l'année 2018, sur les chiffres qu'on a, une montée du nombre de multiplexes, et donc un risque de concentration. Alors, j'avais un quart des recettes pour les cinémas Pathé-Gaumont, par exemple.
Ah oui.
Un quart des recettes de tous les cinémas. Enfin, il y a certains chiffres qui sont quand même un petit peu inquiétants. Sachant qu'on appelle multiplex pas forcément un établissement privé d'ailleurs, mais enfin souvent ils sont privés, et de même un multiplex, c'est simplement un établissement de cinéma qui a plus de 8 salles. Et de même un multiplex peut être arrêt essai, c'est-à-dire qu'on a 226 multiplex en France, mais 40 sont des cinémas d'arrêt d'essai. Alors c'est ce statut arrêt essai est vraiment ce qui est au cœur de l'aide aux salles et au fait que c'est le loisir préféré des Français et aussi c'est le loisir culturel. Enfin, on sent que sans cette aide aux salles arrêt essai, on serait dans un tout autre modèle.
Donc, faut préciser quand même que les villes, les collectivités territoriales ont vraiment augmenté leur participation au financement de la production de films, ce qui est un phénomène nouveau des 10 dernières années. Et il y a un deuxième acteur là qui est beaucoup plus insidieux, qui est le placement de produits, qui se multiplie considérablement, y compris dans le cinéma d'arrêt d'essai, qui est caché.
Enfin, qu'on voit de plus en plus. D'ailleurs, les plus jeunes le repèrent très vite, mes filles à la maison. Ah, placement de produits. Et oui, effectivement, moi ça me choque pas. Enfin, je le vois pas forcément, mais tout le monde le voit. Ce que tout le monde voit en France et partout, effectivement, ce sont les lieux. C'est important de parler de ces lieux de culture. Qu'est-ce que ça change effectivement qu'un multiplex ouvre à la périphérie de telle ou telle ville? Qu'est-ce que ça change pour le cœur de ville? Qu'est-ce que ça change d'avoir une maison d'opéra, que vous le disiez, entre la mairie et le clocher, qui identifie fortement le goût de cette ville pour ce genre-là? Qu'est-ce que ça change que les FRAC, historiquement, les fonds régionaux d'art contemporain, quand ils ont été créés au début des années 80 dans les grandes lois de décentralisation, on les a souvent mis au fin fond de la pampa, je dis avec beaucoup d'affection, et que depuis quelques années, on construit des nouveaux fracs qui sont dans les centres-villes. La même chose pour les grandes maisons de théâtre, et pas seulement de théâtre, et de spectacle. Enfin, ça pose beaucoup de questions. J'ai commencé une large question que va conclure Lucile Gaumont, je sens.
Non, mais je vais la conclure avec l'exemple de la ville où moi j'ai grandi, qui est Évreux, puis je vais continuer sur le cinéma. Parce que moi, quand j'étais jeune, il y avait deux petits cinémas tout petits qui étaient beaucoup trop petits pour accueillir le public hébreuicien. Après, il y a eu une salle qui s'est construite un peu en périphérie, mais qui reste quand même accessible depuis le centre-ville, et qui était un multiplex, donc, mais indépendant. Et ce cinéma est devenu un cinéma pâté assez récemment, je crois, sans que, je pense, le public n'ait vu la différence entre l'offre du multiplex et l'offre du pâté. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des séances en VO, il y avait aussi des invités qui parfois étaient prestigieux, qui parfois étaient du fait d'un choix éditorial, on peut dire, enfin tout à fait subjectif du directeur du cinéma. Et ça, j'en reviens à l'opacité des structures dans lesquelles on consomme de la culture, peut-être encore plus en région. Qu'est-ce que ça change dans le fond que ce cinéma soit un pâté ou un multiplex, Charlotte Garçon?
Alors moi je ne veux pas me focaliser spécialement sur pâté Gaumont ou quoi. Simplement, quand vous avez un multiplex, vous avez beaucoup de salles, parfois 12, parfois 16 même. Et donc c'est un peu comme quand on a des tuyaux, il faut mettre des choses dans le tuyau. Donc du coup, il y a eu un effet de captation des films en VO, des films à réessai, et de même aussi de certains dispositifs publics. Par exemple les séances scolaires. Bon, donc c'est simple. Le multiplex dit bah il y a de la place, on a des salles, on va mettre des choses dedans. Et du coup, qu'est-ce qu'on perd ? On perd un savoir-faire qui va avec une pratique de l'art essai qui n'est pas seulement une sélection de films qui sont labellisés art essai et qui du coup entraîne une subvention par un nombre de séances. Ça les privés comme les publics ont droit de programmer ces films et donc de générer une subvention, qu'ils soient privés ou publics, c'est pas la question. En revanche, sur tout ce qui est accompagnement, sur tout ce qui est, c'est là où c'est un petit peu dangereux, c'est-à-dire que oui, on peut voir le même film en VO dans un cinéma ou dans un autre, mais à un moment c'est aussi la parole et la pertinence de la cinéphilie qui est un petit peu compromise. Moi, c'est vrai que ce que je constate pour le coup dans des tournées, dans des ciné-clubs que je peux faire un peu partout en France, c'est que là où les gens sont le plus présents et là où ils sont le plus réactifs, c'est vraiment dans des endroits où il y a un terreau cinéphile, c'est-à-dire que le travail, il n'est pas une fois, c'est pas d'inviter un grand réalisateur une fois parce qu'on a beaucoup d'argent, c'est sur des années, voire des décennies, et le territoire peut être minuscule. C'est pas...
Même chose pour la maison d'opéra.
Oui, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais à vous entendre, c'est un peu comme l'abandon des commerces dans les centres-villes au profit des grandes surfaces en périphérie, et on se rend compte qu'on a moins le conseil de la marchande, qu'on retrouve moins sa voisine, qu'on échange moins une recette avec, et que finalement on aimerait bien, et que c'est tellement triste de voir ces façades de centres-villes fermées, barrées et taguées, et on aimerait bien voir tout ça se réactiver. Donc il y a un peu un jeu de balancier, et qui, alors, quand on a affaire par exemple pour l'opéra, où j'imagine pour des théâtres aussi, un bâtiment du 18e ou du 19e siècle ou du début du 20e siècle qui est là au centre de la ville, qui est beau, où des gens sont fiers d'entrer ou ont peur d'entrer, ouais. Mais une fois qu'ils ont pu y entrer, parce qu'il y a des actions comme le week-end annuel tous à l'opéra qui quand même marche très bien et permet aux gens aussi de voir toute le foisonnement des métiers, d'aller dans les coulisses, d'apprendre aussi, je sais pas si on aura le temps, mais de parler des enseignements de la culture aussi, parce que ça c'est évidemment très important. Bon, il y a toujours ce jeu qui est investir collectivement des lieux qui vous donneront, mais où on apportera aussi, un peu comme dans le travail, sa force d'admiration ou ses huées ou ses applaudissements en tant que collectif et en tant qu'individu, que chaque personne en ressorte heureuse d'avoir été avec à sa droite et à sa gauche d'autres spectateurs et que lui-même ait vécu une expérience individuelle. Et c'est tout ça qu'il faut tenir en même temps et essayer de dire aux politiques régionaux tant nationaux que c'est très important, même si eux, ils ne raffolent pas de la Traviata ou de
Stockhausen.
Stockhausen ou de Richard III ou de William Kentridge.
Fabrice Gosto.
Je pense que cette comparaison avec la disparition des commerces de proximité, elle est particulièrement juste. Quand il y a eu le grand débat Beaux-Arts organisé avec la Fondation du Patrimoine, le grand débat culture, et ce qui ressortait très nettement, c'était d'une part ce qu'on appelle les zones blanches, donc des zones où il n'y a rien, mais aussi la disparition, entre guillemets, de cet équipement de culturel de proximité qui avait un nom. S'appelait les maisons de la culture. Moi, je suis né dans une petite ville de Haute-Marne, Chaumont, 20 000 habitants. Il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas de musée, il n'y avait pas de cinéma. Il y avait une maison de la culture où j'ai fait mon éducation de cinéphilie, de théâtre, de littérature, petite structure, mais où les gens se rencontraient, se mélangeaient et où il y avait cet aspect pluridisciplinaire. Alors, je pense que le ministère de la Culture et un certain nombre d'acteurs et d'élus en sont conscients. L'une des réponses, mais à mon avis, c'est une réponse partielle, c'est la réponse de ce qu'on appelle les microfolies qui ont été initiées par Didier Fusillier, et pour que les auditeurs comprennent, en gros c'est un grand écran numérique, gigantesque avec des enfants surtout qui sont là avec leur iPad et qui ont accès sur grand écran à des reproductions d'œuvres d'art des plus grands musées français version Google, qui ont accès à un extrait d'opéra, qui ont accès à un extrait de pièces de théâtre ou ce genre de choses. Donc en fait
Ça ne rencontre pas un vif succès parmi tous les professionnels du monde de l'art et de la culture, quand voilà. Même, cette proposition. Qu'elle soit pertinente dans un moment qui était celui de l'île 3000, d'en faire la seule politique culturelle d'envergure, c'est peut-être un peu compliqué.
Voilà, alors l'annonce, c'est l'annonce de créer à l'avenir, les 2-3 ans, 1000 microfolies. Alors c'est vrai que moi j'ai été sur le terrain, notamment en banlieue parisienne, voir, c'est une vraie séduction auprès de publics qu'on pourrait qualifier de... empêcher par l'éducation parce qu'ils ont eu aucune formation et que soudainement ils se retrouvent face à une culture assez vaste par le biais de quelque chose qu'ils connaissent, l'écran. Et que ça entraîne une séduction. Mais est-ce que c'est la politique culturelle des maisons de la culture telle qu'on en parle et qui relie justement les différentes formes de création et de culture? Je crois pas.
Marie Sorbier.
Oui, sur ce maillage du territoire, je trouve qu'on touche là à un point fondamental de la démocratisation culturelle, c'est-à-dire que ce qu'a voulu Malraux, c'est-à-dire d'implanter comme ça des lieux de culture dans la France, je trouve finalement, on peut pas tout jeter à la poubelle, c'est-à-dire que c'est assez réussi. On a quand même 38 CDN, on a 74 scènes nationales, 124 scènes conventionnées, 19 centres chorégraphiques. Je veux dire, on a un territoire qui est quand même assez doté en structures culturelles. Le problème, c'est que une fois les obstacles géographiques levés, ou en partie levés, on n'a pas levé les obstacles symboliques. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on installe un théâtre devant des bars HLM que les habitants des HLM vont se sentir, eux, légitimes de passer la porte qui est pourtant peut-être juste de l'autre côté de la rue. Les obstacles, c'est je n'ai pas les codes. S'il y a une production de Yann Fabre dans ce théâtre, je vais pas être capable de la recevoir, je vais pas comprendre pourquoi je vais passer cette soirée-là, je vais trouver ça moche. Donc, tous ces obstacles-là, symboliques, ils n'ont pas été assez travaillés. Alors, il y a des structures qui le font, hein, je remets pas du tout en question, mais j'ai l'impression, à cet endroit-là, que la démocratisation culturelle a encore du chemin à faire, et c'est cet endroit-là qui est en plus passionnant à explorer et à travailler.
Lucille, comment ?
Mais justement, j'en reviens à des questions géographiques, mais elles sont liées à la question symbolique. Ces gros centres qui ont été construits dans quand même un certain nombre de villes moyennes et qui peuvent accueillir à peu près tout, c'est-à-dire à la fois des congrès, bah c'était d'ailleurs souvent aussi le palais des congrès, mais des congrès, du théâtre, des concerts, du cinéma, pourquoi pas, des séances spéciales, ça existe un peu partout. En quoi c'est si différent, par exemple, de ce que Fabrice Bousteau décrivait tout à l'heure, à savoir un centre de culture, une maison de la culture. Dans le fond, on pourrait penser que le côté multidisciplinaire de ces énormes lieux est un fonctionnement assez traditionnel de la culture dans des petites villes, par exemple.
C'est le cahier des charges vraiment des scènes nationales. Vous disiez que 71, 72 aujourd'hui.
74
qui sont là pour diffuser toute la culture. Hein. C'est pas que du spectacle, c'est pas que de la musique, c'est vraiment tout. Alors, qu'est-ce qui a changé?
Non, mais et c'est vrai que c'est vrai que c'est difficile parce que si on sort les chiffres du nombre de centres d'art en France,
une trentaine, du nombre de FRAC,
24. Et si on regarde le maillage des écoles d'art aujourd'hui en France, toutes font des expositions, qui parfois font aussi des représentations des performances.
Les galeries importantes.
Les galeries importantes. On a effectivement un maillage culturel du territoire qui est énorme, avec encore une fois des zones blanches où il ne se passe rien, et ça c'est réel. Ceci étant dit, les FRAC, enfin toutes les structures, depuis des années maintenant, vont dans des petits villages, se déplacent.
C'est leur mission, quoi. C'est vraiment leur mission.
C'est vraiment leur mission, ça s'accroît de plus en plus. Mais la base, on ne peut pas, si on veut parler de la politique culturelle, et aujourd'hui peut-être d'une crise qui existe toujours depuis, disons, 25 ans de ministère de la Culture, la crise elle est la même. Elle est l'éducation, l'inégalité d'accès à la culture. Ça fait 3 présidents de la République successifs qui s'engagent
à faire une priorité.
Priorité de l'éducation artistique.
Je compte bien, parce que Jacques Chirac avait commencé.
Oui, 4. Et les budgets mis en face sont ridicules. Et la prise en main, il y avait eu à un moment donné, ça a failli exister quand Lang a été ministre de l'Éducation nationale et de la Culture.
Avec Catherine Tasca qui a accompagné ce projet.
Et à un moment donné, moi, je pense que la seule solution, c'est effectivement de revenir à une période ancienne, d'aller fusionner le ministère de la Culture avec l'Éducation nationale. Et aujourd'hui, chaque gamin devrait apprendre une histoire de la culture qui aille du hip-hop au jazz en passant par l'opéra, le baroque, l'art ancien, l'art contemporain. Et on pourrait, même sans aller dans les détails, donner à chacun un goût, un intérêt pour la culture. Il y a vraiment une inégalité d'accès qui est antidémocratique, il faut le dire.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Puisqu'on parle de ville, de culture, d'action culturelle, j'évoquais tout à l'heure la un mal qui frappe notre pays depuis longtemps, la festivalite. Je me demande si la France ne devrait pas figurer au livre des records du nombre de festivals par habitant. Alors, on peut s'en réjouir d'une certaine façon, parce que ça vient parfois recouvrir des zones blanches, comme dirait Fabrice Bousteau. Mais si c'est une semaine par an, qu'est-ce qu'on fait les 51 autres semaines? Est-ce que ces festivals sont des lieux de décentralisation? Est-ce que les municipalités veulent faire parler d'elles une semaine par an? Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui se mélangent. Là aussi, il y a à la fois des initiatives formidables, historiques, d'autres nouvelles, d'autres intéressés, d'autres folkloriques, d'autres très généreuses. Qu'est-ce qu'on constate les uns et les autres dans les domaines qui sont les nôtres, Marie Sorbier, qu'on n'a pas entendu depuis un moment?
Il y a autant de festivals que de villes, que de régions. Alors c'est compliqué
de tirer de tout.
Alors je vais essayer de parler de ce spectacle vivant. Évidemment, je suis obligée de parler d'Avignon pour deux choses. D'abord parce que c'est le plus important de le spectacle vivant français. Et puis d'abord parce que j'y suis née. Donc j'ai une expérience d'enfant du festival d'Avignon.
Pas dans le festival directement, mais
je suis née à Avignon. Et ce qui était surprenant, c'est que toute mon enfance, le temps du festival, on fuyait la ville. C'est-à-dire que je me souviens de ma famille qui disait « Ouh là là, c'est le festival, surtout on n'y va pas, les Parisiens descendent, ça va être horrible, il faut s'en aller ». Donc je ne suis pas allée au théâtre pendant des années, le festival je ne le connaissais pas, sauf par rejet, disant « ça va être horrible, on ne pourra pas se garer », il y avait des considérations très pratiques comme ça. Donc je l'ai connu plus tard, c'est quand je suis venue faire mes études à Paris où tout le monde me disait ouais, « tu viens d'Avignon, le festival d'Avignon » et j'ai commencé à comprendre l'intérêt de ce festival une fois à Paris. Donc c'est ce rapport un peu d'image, un peu complexe à vivre comme ça. Je crois qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup de politique, notamment sur le festival d'Avignon, pour justement essayer de rassurer les gens du territoire et de montrer que c'est aussi un festival qui leur appartient, notamment avec cette envie, je crois, un peu généralisée sur les gros festivals, de durer pendant le reste de l'année. Le festival d'Avignon, c'est 3 semaines en juillet. Il y a eu des lieux qui ont été construits et qui sont aujourd'hui pérennes pour permettre des représentations, mais surtout des activités autour de ces représentations qui ont eu l'été. Je pense à la Fabrica, qui est un lieu qui a été conçu par l'ancienne direction du festival d'Avignon, Vincent Baudrier et Hortense Archambault, qui est un lieu qui a les caractéristiques d'avoir les mêmes dimensions, le plateau a la même dimension que la cour d'honneur. Donc à l'origine du projet, c'était de dire que les artistes allaient pouvoir répéter plus que 2 semaines sur ce plateau, mais allaient pouvoir répéter pendant l'année sur un plateau équivalent. Et puis ce lieu, maintenant, fonctionne évidemment à l'année avec de multiples rencontres, des rencontres avec les artistes qui viennent d'y passer ou qui y seront l'été prochain. Donc on s'aperçoit que les festivals qui sont par essence éphémères cherchent, eux, à se pérenniser dans le temps, alors que, en même temps, dans les saisons de théâtre qui sont censées être donc saisonnières à l'année, eux, il y a une tendance à la festivalisation des saisons, c'est-à-dire à une concentration de temps fort.
Ce que vous venez de dire, Marie, pour Avignon, pourrait presque le dire à l'identique pour Aix. Les Aixois qui fuyaient dans la campagne et dans le Luberon ou plus loin. Et le festival qui a, avec Aix en juin, pour montrer que tout ce qui se préparait dans le festival pouvait accueillir aussi un public, a priori plutôt local, les Parisiens ne descendant qu'en juillet. Voilà, donc c'est à peu près à l'identique. Ce qui me semble toujours très intéressant dans les festivals, et je me dis que là, il y a une manne qu'il faudrait exploiter, on dit toujours que la plupart des festivals sont les bénévoles qui aident à accueillir le public, à la régie, les artistes, etc. La plupart ne fonctionneraient pas. Et c'est vrai, moi j'aime beaucoup par exemple chaque été aller aux rencontres musicales de Vézelay, qui sont, le lieu est sublime, un très beau festival, mais l'équipe professionnelle, si on enlève les bénévoles, il ne reste presque plus rien au point de vue numérique. Ces bénévoles qui travaillent et qui s'investissent comme des fous et avec une vraie passion pour la culture, qu'ils soient étudiants, retraités, qu'ils aient une maison dans la région, qu'ils habitent à l'année, le reste de l'année, c'est des acteurs culturels extraordinaires et dans leur territoire et au-delà. Comment réfléchir avec eux pour que les fameux lieux culturels multiplexes dont Lucille parlait tout à l'heure, ils puissent les animer toute la journée, que ces lieux ne soient pas ouverts uniquement au moment du spectacle, mais soient un lieu de vie du matin au soir. Enfin, voilà, il y aurait des choses à réfléchir avec tous ces gens qui s'investissent avec énormément de passion, de talent et d'expérience au fil des années et qui ont plein de choses à importer de manière intergénérationnelle, je lance le grand mot, mais qui est vrai aussi pour la diffusion de la culture. Donc là, Je sais pas comment, mais je pense qu'il y a quelque chose.
On a vu aussi beaucoup, Fabrice Bousteau, des villes misées sur l'événementiel. Et c'est vrai que la culture, ça ramène de l'économie. Hein. Ça fait des nuitées, ça fait des restaurants pleins, ça fait des achats. Alors ça se fait pour des bonnes et moins bonnes raisons. Mais en tout cas, ça peut être aussi pour la défense de la culture. C'est aussi dire, mais ça ramène de l'argent. C'est le cas à Nantes, avec toute l'aventure du lieu unique de Jean Blaise et de tout ce qui se passe. À Lille, évidemment, puisqu'après Lille 2004, capitale européenne de la culture, Lille a pérennisé aussi ses actions, pas seulement par les microfolies. C'est un enjeu quoi, économique, touristique et pas seulement culturel.
Il y a deux enjeux, en définitive, dans le domaine de l'art contemporain et qui s'étend d'ailleurs, parce que ces festivals, maintenant, ils essaient d'être pluridisciplinaires. Il y a deux enjeux, ce que je pourrais appeler une sorte de décentralisation augmentée, c'est-à-dire un maillage culturel du territoire. Si je prends le festival Normandie Impressionniste, donc qui est reconduit pour la troisième fois, c'est 38 communes. Donc ça va effectivement du Havre, de Caen, mais à des toutes petites communes. Et donc l'intérêt, c'est que ça crée vraiment un maillage culturel du territoire. Et ça évite le phénomène qui existait, qu'il y a des expositions uniquement dans les grands musées, dans les grandes structures, et on ne va que là. Donc ça permet également au public de découvrir des espaces qu'il ne découvrirait pas. Et puis, on se sert de ces festivals pour Normandie ou Impressionniste, pour le voyage à Nantes notamment, pour attirer beaucoup de tourisme. Alors le symbole, c'est Jean Blaise, qui a été un des grands acteurs de cette politique festivalière dessus, qui a fusionné il y a quelques années au sein de la ville de Nantes le département du tourisme avec le département de la culture. Donc il est responsable des deux, tourisme et culture. Ça avait été très critiqué à une époque parce que, ça y est, la culture ne pouvait pas avoir des enjeux touristiques et le tourisme... mais en fait, somme toute, on se rend compte qu'après des années de politique sur le tourisme et la culture, c'est pas du tout obscène de fusionner les deux, et que ça attire un public multiple, ça augmente les budgets, et ça permet d'avoir une politique culturelle plus active, et on voit qu'une ville comme Lille a inondé, y compris dans sa banlieue, des zones qui étaient vraiment déshéritées culturelles, et que grâce à cela, ils ont pu développer une politique culturelle et attirer un public aussi à caractère européen, international et européen. Donc on voit, parce qu'on n'aura pas eu le temps de parler de cette question de la culture européenne...
On fera ça pour les élections européennes dans 3-4 ans.
Dans 3-4 ans, voilà. Non, c'est 0,0001% du budget de la culture. Ouais. On a fondé l'Europe sur une monnaie et non pas sur une culture. On sait qu'aujourd'hui, on a un problème d'identification culturelle de l'Europe. Ça résoudrait beaucoup de problèmes. Et je pense que quelques régions, justement, c'est le cas de Lille, c'est le cas de l'Alsace, essayent de multiplier les relations culturelles transfrontalières. Et ça, c'est très intéressant. Et ça crée du tourisme et de la culture.
Ce que la Roure a su faire, par exemple, alors que Dieu sait qu'elle n'était pas forcément attirante touristiquement.
Exactement.
Allez, on conclut ce dernier tour de table avec Charlotte Garçon.
Donc ça me fait penser qu'il y a un livre qui vient de paraître, fin 2019, qui s'appelle Cinema Makers, et qui est sur 22 cinémas européens non français, qui sont des initiatives un peu folles, un peu particulières. C'est vrai qu'on a tendance à dire pour le cinéma que la France est un modèle, mais finalement dans les pays, et elle est leader en nombre d'écrans et en nombre d'entrées, mais il y a plein d'idées. Donc je signale la parution de ce livre aux éditions du Bloc Documentaire. Et c'était sur cette idée que c'est aussi une question
ailleurs.
Européenne.
Mais
oui, c'est ça.
Si l'heure de cette émission est extensible, il y a tellement d'autres sujets qu'on aurait abordés. Et effectivement, la vision transfrontalière est importante.
Je voudrais 30 secondes parce qu'on a parlé des grosses machines, mais aussi il faut parler d'énormément de minuscules festivals et ce qui est en train de se développer.
Le tissu associatif culturel,
voilà,
extraordinaire,
culturel qui sont justement en milieu rural et qui commencent à se développer avec très peu de budget et qui proposent aussi une culture alternative, parce que là on est sur des budgets plus restreints. Et du coup, on propose d'autres offres artistiques, et ça, il faut en parler.
Il faut en parler, il faudra continuer à en parler. Alors, on le fait dans la programmation de cette émission, parce qu'on essaye d'être aussi sensible à ce qui se passe partout, pas seulement dans les grandes maisons. Vous le savez bien. Bon, merci vraiment d'avoir essayé et d'avoir pas mal réussi à donner comme ça une vision du paysage, très riche quand même, il faut bien le dire, mais compliqué aussi, le paysage culturel français. Puis diffuser la culture, c'est aussi faire gagner des éléments qui ressortent du monde de la culture. Hier soir, je ne sais plus ce qu'on faisait gagner, mais Lola Schiedler va nous rappeler la question qu'on posait et nous donner sa réponse avant le jeu du soir.
Quelle célèbre personnalité Gilles Caron a-t-il photographié face à un policier devant la Sorbonne le 6 mai 1968? Et la réponse est Daniel Cohn-Bendit.
Et on faisait gagner évidemment des entrées de cinéma, comme ce soir d'ailleurs. Ah non, ce soir ce sont les DVD du film de Javier Hercy, Tu mérites un amour, édité par Arte, qu'on fait gagner en répondant à quelle question, Lola?
Qui est le réalisateur de La Graine et le Mulet, film qui a révélé Afsia Herzi sur la scène cinématographique?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Issa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault, Léla Schidler, prise de son ce soir Théo Gomard, réalisation Alexandre Fougeron. Demain, une dispute art plastique. Je serai en compagnie de Corinne Rondeau, Yasmine Youssi, Ingrid Duc-Egade. Nous parlerons de La Bête, un conte moderne, une exposition de Yasmina Ben Abderrahman. C'est au BAL. Le supermarché des images, c'est au Jeu de Paume. Claudia Andujar, La Lutte Yanomami, c'est à la Fondation Cartier. Puis il y aura un coup de cœur de Corinne Rondeau pour l'exposition Drapée au Musée des Beaux-Arts de Lyon.
France Culture. L'esprit d'ouverture. Février 2020, la campagne des élections municipales s'élance en France dans un climat social délétère. D'anciens candidats jettent l'éponge, d'autres jettent leur étiquette. Alors que les citoyens continueraient à croire en leur maire et en leurs élus, quels sont les liens entre identité et culture locale? L'attractivité des régions passe-t-elle par la culture? Comment lutter contre les déserts culturels? Identité, égalité, attractivité, les territoires de la culture, jusqu'au 16 février, semaine spéciale municipale 2020 sur France Culture, un dossier à suivre sur franceculture.fr. Semaine spéciale municipale 2020 sur France Culture, Xavier Mauduit.
Cette semaine, culture et territoire, autrement dit, l'œuf ou la poule. Est-ce la culture qui fait le territoire ou bien est-ce le territoire qui fait la culture? Sans doute un peu des deux dans une longue conversation. Fouilles archéologiques, musées municipaux, fêtes au village et scènes nationales, quels liens étroits entretiennent territoire et culture?
Le cours de l'histoire du lundi au vendredi à 9h05 et sur franceculture.fr.
Votre soirée sur France Culture à 20h30. Fiction, deuxième épisode de Debout les morts de Fred Vargas. 20h55, carnet de création de l'Aude Lavigne qui s'intéressera au centre social Constance Social Club de Faux. La montagne. Dans Par les temps qui courent, Marie Richeux, elle, recevra le romancier Marcus Malte pour son nouveau livre Air aux éditions Zulma.